Le monde en question avec Isabelle Cortian.
Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Adèle Combes. Bonjour Adèle Combes.
Bonjour.
Vous êtes docteur en neurobiologie, initiatrice du projet Vie de thèse. Vous publiez comment l'université broie les jeunes chercheurs aux éditions Autrement, une enquête que vous avez menée en interrogeant à peu près 2000 personnes, un petit peu moins, ayant effectué un doctorat. Alors avec vous aujourd'hui, on va parler de ce livre dans lequel vous alertez l'opinion sur la souffrance, la précarité et les conditions, disons, de travail dégradées dans lesquelles sont ces jeunes doctorants. Mais tout d'abord, Adèle Combes, comment vous est venue cette idée d'écrire un livre, vous qui êtes docteur en neurobiologie et pas nécessairement sociologue? Enfin, en tout cas, ce n'était pas votre destination initiale ou vocation initiale de réaliser cette enquête et d'en faire un livre.
Ah, exactement, et d'ailleurs c'est ce que j'écris au début du livre. Moi je n'ai pas de formation en journalisme, je n'ai pas de formation en sociologie, ni même en psychologie, je suis docteur en neurobiologie.
Oui.
Mais en fait je m'interroge sur le monde de façon générale et j'ai assez vite réalisé qu'une démarche scientifique pouvait aussi s'appliquer à un questionnement plus humain. Et c'est pour ça que quand j'ai décidé de lancer mon enquête, je me suis dit, je peux le faire, je vais m'entourer de personnes qui ont les compétences, donc je vais demander conseil à des docteurs en psychologie, à des docteurs en psychologie, en sociologie, bien sûr, mais je peux mener ce projet-là. Ensuite, l'idée, clairement, de ce livre-là, au départ, c'était vraiment...
Le déclic.
Au départ, j'avais même pas l'idée forcément d'en faire un livre. Je me posais une question, je me suis dit, tiens, moi, j'ai observé et vécu des dérives dans la recherche en tant que jeune chercheuse. Il me semble que d'autres personnes vivent ce genre de situation, parfois bien pire même. Alors, qu'est-ce que ça signifie, voilà? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que je peux quantifier ce problème-là? Et c'est un petit peu comme ça. Donc, je me suis renseignée, j'ai cherché sur Internet, j'ai cherché des articles. Et en fin de compte, les articles, en tout cas dans les journaux que je trouvais, tournaient plus autour de les opportunités professionnelles à l'issue du doctorat, la difficulté de trouver un poste, par exemple, la reconnaissance aussi du doctorat par rapport, en France en particulier, par rapport au diplôme d'ingénieur. Donc, ce sont des thématiques qui sont abordées. Mais cet aspect humain des relations humaines qui peuvent être dégradées dans certaines équipes de recherche, c'était très peu abordé. Alors que moi, je rencontrais des personnes, je voyais des messages sur les réseaux sociaux qui disaient « je fais une dépression, je fais un burn-out, on me harcèle, sexuellement, moralement, on vole mes travaux ». Donc je voyais une espèce d'incohérence entre ce que je pouvais percevoir sur les réseaux sociaux et la communication de façon générale qu'on pouvait avoir sur le sujet.
Oui, et alors comment vous êtes mise, vous-même, avez-vous rencontré ce genre de difficultés ou comment vous êtes attelé à cette tâche? Et peut-être ce serait bien de rappeler le schéma d'études, c'est-à-dire qu'on va en licence, on est dans le système du processus de Bologne, donc c'est LMD, licence, master, doctorat. Donc le doctorat, on l'entame après 5 ans d'études, si on poursuit ses études dans l'enseignement supérieur. Et quand on fait un doctorat, alors quel est le processus pour bien distinguer les différentes personnes et types de situations dans lesquelles on peut se trouver avant de parler de la détresse et de la souffrance ou du mal-être d'un certain nombre de jeunes doctorants ou jeunes doctorantes?
Alors effectivement, le doctorat débute après un master ou un niveau master. Il peut y avoir différentes façons d'y accéder. Donc, généralement, c'est un contrat qui dure 3 ans. Mais justement, j'ai utilisé le mot contrat, certains doctorants ne sont pas payés, donc n'ont pas de contrat de travail. Donc si je résume, on va avoir, après un master, certains vont passer un concours d'une école doctorale en l'occurrence, oui, pour pouvoir prétendre à un contrat de travail avec un financement d'une durée de 3 ans, qui permet de toucher le chômage à la fin, d'avoir des droits sociaux, etc. Ensuite, il peut y avoir certains contrats payés par d'autres instituts, le CNRS, des instituts privés. Et ensuite, il y a, je résume bien sûr, il y a plusieurs autres choses, mais il y a des jeunes chercheurs, principalement en sciences humaines et sociales, mm-hmm, qui font un doctorat, mais qui n'ont pas de contrat pour l'effectuer, qui ne sont pas payés pour faire ça, alors qu'il s'agit d'un travail. C'est pas, on travaille, c'est vraiment, on fait un travail pour la société, un travail de recherche, et ces personnes-là n'ont pas de droits sociaux.
Alors, ils sont quand même ceux qui n'ont pas de rémunération durant les 3 années qui constituent le cycle d'un doctorat, sont quand même rattachés à une école doctorale.
Alors, en tout cas,
sans contrat.
Voilà, ils sont sans contrat et ils sont considérés comme des usagers de l'université, mais comme des étudiants en fait, mais pas comme un employé de l'université.
D'accord. Et ces doctorants sous contrat et ceux qui ne sont pas sous contrat avec une école doctorale et l'université, il y a une différence entre ceux qui sont en sciences humaines et ceux qui sont en sciences dures, pour employer des grands...
Oui, on va utiliser sciences humaines et sciences dures, entre guillemets.
Oui, voilà.
Alors, effectivement, en grande majorité, les personnes en sciences dures, donc maths, physique, chimie, etc., oui, ou sciences expérimentales, ont un contrat et ont une rémunération.
D'accord.
En revanche, il n'y a pas cette obligation-là pour les sciences humaines. Mm-hmm. Donc, en sciences humaines, effectivement, certains ont un contrat. Donc, en fin de compte, là... Ce n'est pas les doctorants qui ne sont pas rémunérés ne sont pas la majorité, mais si je prends par exemple les chiffres de la Confédération des jeunes chercheurs, ils ont évalué à peu près à 15 000 contrats doctoraux manquants, mmh, en France. On a à peu près 70 000 docteurs chaque année.
Oui.
Donc sur 3 ans, il manquerait 15 000 contrats doctoraux.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose clairement qu'il faut remettre en question.
C'est-à-dire des chercheurs qui donc font leur doctorat, préparent pendant 3 ans leur doctorat et ne bénéficient pas, contrairement à certains de leurs autres condisciples, de rémunération.
Absolument, absolument. Et encore une fois, c'est pas juste être étudiant. Non, c'est faire un travail. On apporte un bénéfice.
Quel est ce travail en dehors de présenter une thèse? Est-ce qu'il y a un autre travail que celui de faire sa thèse, une autre obligation que celui de faire sa thèse durant les 3 années doctorales?
Alors souvent, on mélange, c'est vrai qu'on utilise comme un synonyme le mot doctorat et le mot thèse. Si on veut vraiment être puriste, on va dire que la thèse, c'est le document, oui, l'écriture, mais on utilise quand même l'expression thèse pour dire doctorat. Donc en fait, c'est tout simplement un travail de recherche. C'est un travail de recherche qui... Et d'ailleurs, justement, quand on se pose cette question-là, cela veut bien dire qu'il y a parfois un questionnement sur le statut. Quel est le statut professionnel? Est-ce que c'est un statut professionnel? Est-ce que c'est un statut doctorant? Est-ce que c'est un statut étudiant? Mm-hmm. Mais il se trouve que c'est les deux. C'est un statut professionnel, oui, c'est un travail de recherche qui mérite salaire, normalement, mm-hmm, mais c'est aussi un statut professionnel qui débouche sur un diplôme.
Oui.
Donc, en cela... c'est un statut qui est double, un peu bâtard, et qui,
oui,
fait...
Hybride, en tout cas, oui.
Exactement, et qui fait que eh bien, certains sont considérés uniquement comme des étudiants qui n'ont pas besoin d'être rémunérés, alors que ce travail, qui peut comprendre notre société, des études de sociologie, par exemple, ça bénéficie à toute notre société, on a besoin, c'est indispensable d'avoir ces recherches-là, et en fait, ces gens-là ne sont pas tous payés pour faire ce travail-là.
D'accord.
Et derrière le financement, c'est pas que le financement, c'est aussi les droits sociaux, c'est-à-dire un congé maternité, un congé maladie, les droits au chômage à l'issue de ce travail-là, ils sont inexistants.
Mais avec un statut étudiant, ils ont une couverture sociale néanmoins?
Alors il peut y avoir une couverture sociale étudiante, ça va dépendre ensuite des personnes, mais par exemple, le CROUS, c'est censé être une aide. L'aide du CROU, c'est pour les étudiants.
Les bourses sur critères sociaux.
Exactement.
Oui.
Mais les doctorants ne peuvent pas y prétendre.
Oui, parce qu'elles s'arrêtent au niveau master. Avec cette idée qu'après, les étudiants peuvent obtenir d'autres types de subventions, notamment par le biais d'une école doctorale.
Exactement.
Et des financements de la recherche. Sinon, effectivement, on peut avoir une bourse sur critères sociaux, mais jusqu'à la deuxième année de master.
Exactement. Donc, on les considère comme des étudiants dans certains cas, mais quand ça n'arrange pas trop, en fait, on va considérer que ce n'est pas vraiment des étudiants.
Oui. Alors, il y a aussi, alors pour compléter ce tableau un petit peu universitaire, du paysage universitaire, il y a aussi les post-doctorants. Vous n'avez pas, enfin, qui peuvent aussi, enfin, c'est-à-dire des gens qui ont fait leurs 3 ans d'études doctorales avec à la fois des travaux de recherche et ils ont fait leur thèse qu'ils ont soutenue. Ils sont donc docteurs. Et à la suite de cela, quel débouché ? Donc, parce qu'on entend beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment de débouché, on les appelle des post-docs ou des post-doctorants, c'est-à-dire qu'ils en sont à chercher des contrats. Ils sont aussi concernés par votre étude ou pas ?
Alors, ils sont concernés. C'est vrai que moi, je me suis plus focalisée sur le doctorat en lui-même, oui, parce qu'il y a cette pression à l'obtention du diplôme, oui, qui est très importante dans l'équation, justement, des relations de pouvoir. Mais bien sûr, typiquement, donc, j'ai fait de nombreuses interviews et je les relate sous forme de récits narratifs. Ce ne sont, oui, pas des fictions, ce sont des récits, mais sous forme narrative. Et il se trouve qu'un des doctorants devient post-doc. Et donc, oui, il y a l'aspect du post-doctorat aussi qui est relaté dans le livre. Et clairement, normalement, les post-doctorants sont tous rémunérés, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir un contrat. Là, ils ont leur statut de docteur, c'est un statut professionnel. En revanche, là, on va aborder un autre problème qui est, ce sont des contrats en CDD. Donc, oui, en fait, ce sont toujours des chercheurs précaires, qui, mmh, sont déjà docteurs, mais ce sont des chercheurs précaires qui, généralement, pas obligatoirement, on peut ensuite faire carrière en dehors du monde académique, mais qui, pour certains, pour beaucoup en tout cas, souhaitent postuler et obtenir un poste dans la recherche française, donc un poste de titulaire. Donc il faut passer les concours, il faut avoir un dossier en béton armé, mmh, et même avec un dossier
les
en béton armé.
Vous parlez desquels ?
Par exemple, ben, le concours du CNRS ou le, oui, concours de l'INSERM, ce sont, mmh, des concours qui sont de plus en plus difficiles à obtenir, qui nécessitent d'avoir un dossier très solide, mais aussi du réseau, et qui finalement peuvent être source de souffrance aussi, de beaucoup de frustration de la part de ces chercheurs non titulaires. Ça, c'est un sujet que je vais un peu moins aborder dans mon livre, mais par exemple sur l'exemple de Baptiste, oui, lui cherche des post-doctorats.
Un des 3 longs témoignages cités dans votre livre, oui, on y reviendra. Oui.
Exactement. Il cherche par exemple plusieurs postes en post-doctorat, oui, mais étant donné qu'il faut une lettre de recommandation de la part de son directeur de thèse, oui, et que ça s'est très
pas
mal
très,
passé,
oui, pas très bien, oui, ou très mal, oui.
Exactement. Et en fait, il est complètement bloqué. Et ensuite, pour passer.
Blacklisté.
Il est blacklisté. En tout cas, clairement, son directeur de thèse ne l'aide pas et fait même en sorte qu'il puisse rester au maximum pour pouvoir l'utiliser. Il est vraiment considéré comme de la main-d'œuvre. Baptiste, mmh, a été considéré comme de la main-d'œuvre, pas chère, corvéable à souhait. Et étant donné qu'on ne lui donne pas la possibilité facilement, en tout cas, d'aller dans un autre laboratoire, de trouver un peu la lumière ailleurs, c'est très difficile de faire carrière par la suite. Et d'autant plus que c'est une personne qui a fait un doctorat un petit peu sur le tard et qu'il existe officiellement ou parfois officieusement des sélections selon l'âge. Mmh. Officiellement, ça n'existe plus. Mais ce qu'il, lui, m'a rapporté de la part de son directeur de thèse, c'est son directeur de thèse lui dit très bien que tu peux être naïf, tu crois que ton âge n'a plus d'importance. Mais si les personnes qui sélectionnaient les dossiers selon l'âge avant, il continue de le faire. La seule différence, c'est que c'est officieux maintenant. Mmh. Donc ça, c'est ce qu'il a rapporté, lui, de la part de son directeur de thèse. On peut se poser la question, est-ce vraiment le cas ? Ce serait intéressant d'avoir des témoignages de personnes au sein des jurys, des personnes qui nous diraient réellement ce qu'il en est au sein de ces jurys-là. Et est-ce qu'officieusement, il y a toujours une sélection selon l'âge ?
Oui, surtout des débouchés aussi. On imagine qu'en gros, il faut avoir quel âge pour commencer l'idéal, c'est avoir quel âge pour commencer un doctorat et on doit le terminer à quel âge ?
Alors, il n'y a pas de règle, et surtout, parce que la durée du doctorat va varier.
Ouais.
Moi, par exemple, j'ai commencé mon doctorat à 24 ans.
Ouais.
Donc, je l'ai terminé à 28.
Mmh.
Parce que j'ai fait à peu près 4 ans de doctorat, un petit peu moins. J'ai eu un congé maternité au milieu. Mais un doctorat peut prendre 4, 5, 6, 7 ans. Ces durées un peu plus longues, 5, 6, 7 ans, parfois plus, sont plutôt vues en sciences humaines et sociales.
Mmh. Où il n'y a pas de rémunération. Parce que
où il
n'y
a pas toujours de rémunération, où c'est plus compliqué. Et clairement, il y a des droits qui manquent, il y a des financements qui manquent, et il y a une représentation tout simplement des jeunes chercheurs précaires qui manquent.
Alors c'est le moment de faire une première pause musicale, si vous le voulez bien, Adèle Combes. Nous allons écouter Muse, Won't Stand Down.
That I would concede and let someone trample on me. You strung me along, I thought I was strong, but you were just gaslighting me. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser, living vicariously. I never believed that I would concede and get myself blown asunder. You strung me along, I thought I was strong, but now you have pushed me under. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser, and I refuse to take it. Complaining you at your own game. I'm cutting you out. A shadow of doubt is gonna hang over your name. I've opened my eyes, I see your disguise. I will never see you the same. I know how to win before you begin. I'll shoot you before you take aim. Now I'm coming back, a counterattack, a psychological war. I'm cutting you in, I'm under your skin. Now I'm gonna settle the score. I've opened my eyes, I see your disguise. I will never see you the same. I know how to win before you begin. I'll shoot you before you take aim.
Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Adèle Combes qui publie Comment l'université broie les jeunes chercheurs. Mais vous avez quelques mots à dire sur Muse cette chanson. Pourquoi
alors,
vous l'avez choisie?
Pourquoi j'ai choisi cette chanson? Déjà, ils viennent de la sortir.
Ouais.
Et je trouve que la thématique est vraiment on point parce que c'est une ode au fait de ne pas se laisser faire, de se battre pour ses droits. Et, et en plus, pour la petite anecdote, dans mon livre, je parle d'un concert, un moment où je passe des heures à attendre le début du concert où je parle de mon enquête à plusieurs personnes, où je rencontre par hasard des docteurs et des personnes qui s'intéressent au sujet des maltraitances, du harcèlement de façon générale. Mmh. Et c'était en attendant un concert de ce groupe-là, donc je me suis dit j'allais rendre hommage aussi comme ça.
Oui, alors justement, comment l'université broie les jeunes chercheurs? Broyer, c'est un terme très fort, mais est-ce que vous pouvez préciser quel genre de souffrance et de mal-être, à quels différents niveaux? Est-ce que c'est un simple mal-être parce que finalement on est incertain de l'avenir, de ses débouchés, ce n'est pas facile, c'est un moment difficile que celui de la thèse, ou est-ce que ça va beaucoup plus loin en matière de discrimination, en matière de ce que la société reconnaît désormais comme des délits, à savoir harcèlement sexuel, moral, violence psychologique, etc., violence sexuelle?
Ah oui, clairement. Alors dans mon enquête, j'ai justement veillé à faire une distinction entre diverses violences, oui. Par exemple des violences psychologiques, oui. Et ce qui relève du harcèlement. Parce qu'on peut vivre une fois, par exemple, une violence, une oui. Personne nous insulte ou nous hurle dessus pendant une réunion, c'est une violence. Oui. Mais si elle s'est produite une seule fois, on ne va pas considérer nécessairement ça comme du harcèlement.
Moral.
Voilà, ou du harcèlement moral. En revanche, attention, pour le harcèlement sexuel, une seule fois suffit.
Une seule fois
voilà,
suffit.
Une seule fois suffit.
Nous sommes bien d'accord, c'est pour
exactement.
Ça que j'avais précisé moral.
Tout à
oui.
Fait, tout à fait. Mais il peut y avoir une différence. On va considérer que du sexisme, une blague graveleuse une fois, très lourde, n'a rien à faire dans le monde professionnel, certes, ne va pas forcément être considéré par les répondants, en tout cas, comme étant du harcèlement moral. Et ce qui est assez intéressant, typiquement dans les questions que j'ai posées, c'est on me hurle dessus, oui ou non, on m'empêche de parler, on me critique mes congés, on critique ma maternité, on m'oblige à payer des frais professionnels sans aucun remboursement, en dehors du manuscrit de thèse qui est un cas un peu particulier. Il peut y avoir diverses violences comme ça. On vole mes travaux, ça c'est
on
bien sûr.
On vole mes travaux, vol ça c'est travaux, l'autre aspect.
C'est un autre aspect, clairement. Il y a le jeu sur faire du chantage au diplôme, oui. Faire du chantage à l'obtention d'un poste, l'obtention d'un article.
Oui, ou la soutenance. Est-ce que je vais pouvoir ou pas soutenir ma thèse ?
Tout à fait, donc, oui, tout à fait. Donc, l'obtention du diplôme, très clairement. Donc, ce sont des situations-là, des personnes répondaient simplement par oui ou non. Si elles répondaient oui, j'ai vécu cette situation-là. Oui. Dans ce cas, je posais la question, quels sont les auteurs ? Mm-hmm. Le directeur, la directrice, un collègue, une personne extérieure, à quelle fréquence ? Et est-ce que c'est en privé ou en public ? Mais ensuite, à l'issue de toutes ces questions-là, il y avait la question, j'ai défini le harcèlement moral selon la loi. Et ensuite, je posais la question, considérez-vous, au vu de cette définition et en fonction de ce qu'on a vu tout à l'heure, mm-hmm. considérez-vous avoir subi du harcèlement moral mm-hmm. durant votre doctorat ? Et il y a une personne sur cinq qui a répondu oui à cette question.
Sur à peu près 2000 personnes.
Sur un panel d'à peu près 2000 personnes.
Voilà, 2000 personnes dont vous avez recueilli les témoignages. Ça fait quand même beaucoup.
Bien sûr. Et c'est vrai, beaucoup me disent c'est pas la majorité, ça va. Ben oui, heureusement, mais encore heureux, c'est pas la majorité. Mais c'est pas parce que c'est pas la majorité qu'il faut pas faire quelque chose pour ces personnes-là. Ça reste inacceptable. Une seule personne, ça resterait inacceptable. On dirait pas forcément que c'est systémique, ça serait inacceptable. Mais là, la façon dont le système est conçu fait que dans certains endroits, pas partout encore une fois, mais dans certains endroits, il y a des phénomènes de harcèlement moral, il y a des phénomènes de harcèlement sexuel, ce ne sont pas du tout des cas isolés.
Alors je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on retrace, parce qu'il y a 2000 témoignages, un petit peu moins, que vous avez recueillis, en faisant effectivement extrêmement attention, parce qu'il y avait un aspect psychologique avec des souffrances qui sont là, qui sont restées, hein, ou des traces de cette souffrance. Donc vous avez collecté donc près de 2000 témoignages, mais en particulier dans le livre, vous racontez avec une sorte de, comment on appelle ça, de rétro-planning, jusqu'au soutenir, jusqu'au jour où on arrive à soutenir la thèse, le cauchemar ou le chemin de croix qu'ont traversé un certain nombre de ces doctorants. Donc il y a trois personnes, Laurine, Baptiste et Sarah. On peut évoquer brièvement, mais quand même pour identifier les souffrances ou les discriminations ou les violences qu'elles ont subies de toutes sortes, parce qu'après elles sont confirmées par d'autres témoignages aussi. Donc voilà, commençons par Laurine.
Oui, bien sûr. Alors justement, pourquoi, d'abord, pourquoi, pourquoi ce livre se lit comme un roman ? Pourquoi je décris de façon immersive ces situations ? C'est que cette enquête, elle est double. Il y a une enquête chiffrée sur un peu moins de 2000 répondants, mais mon idée ici, c'était de donner chair à ces chiffres. Quand vous dites 20% de harcèlement moral, bon, vous voyez ce chiffre, vous dites « oh là là, ça fait beaucoup ».
Et puis en voilà. En même temps, ça fait 80% qui ne sont
pas
harcelés.
Exactement. On dit « bon, donc on va passer un peu à autre chose et on ne va pas nécessairement saisir tout ce que cela implique. Quel est l'aspect humain ? Qu'est-ce que ça veut dire être harcelé moralement ? Pendant 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire se faire agresser sexuellement par son directeur de thèse et ne pas savoir comment réagir, ne pas savoir vers qui se tourner et revivre des conséquences professionnelles d'un refus d'une relation amoureuse ou d'un refus d'une relation sexuelle.
Ça sur veut sa dire carrière, oui, sur sa carrière
bien sûr.
Dans l'avenir, oui.
Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est pour ça que, en mon sens, j'ai décidé de faire que ce livre puisse se lire comme un roman pour rentrer dans cette réalité intime, cette réalité crue du vécu des personnes qui ont témoigné. Parce qu'à travers ces récits-là, ces personnes représentent toutes les personnes qui ont vécu ces situations-là.
Tout à fait.
Voilà, ils incarnent
des paradigmes. Des paradigmes. Alors, Laurine, c'est cauchemardesque. On a l'impression d'être dans un roman noir ou kafkaïen, peut-être situation kafkaïenne. Elle arrive et elle est toute contente d'être en thèse parce qu'aussi on a oublié de le dire, mais en général c'est un moment de grande euphorie que de se dire ah ben voilà, je suis acceptée en école doctorale et en plus elle obtient une subvention enfin, et aussi des frais pour se déplacer qui vont lui être confisqués d'ailleurs par son directeur de thèse. Voilà.
Oui, exactement. Alors l'exemple de Laurine, c'est un exemple qui représente malheureusement le vécu de nombreuses doctorantes. Certains doctorants aussi. Dans le récit de Laurine, c'est une jeune femme brillante qui a toujours eu d'excellents résultats, qui obtient un financement, qui a une thèse de rêve, qui est censée, en tout cas sur le papier, ça doit être une thèse de rêve. C'est d'ailleurs son rêve de devenir chercheuse en géologie. Et elle va travailler avec 2 directeurs de recherche, donc en co-direction, un grand ponte qu'elle a toujours admiré et un autre qu'elle ne connaît pas particulièrement, mais qui a beaucoup d'influence dans le domaine.
Dans le système universitaire.
Absolument.
Voilà.
Et effectivement, l'exemple de Laurine montre bien qu'on a beau avoir un caractère bien trempé comme elle l'a.
Oui, parce qu'elle est effectivement loin d'être une petite naïve ou une timide.
Exactement.
Elle répond. Mais alors, allons-y.
Elle répond, elle a toujours été très diplomate. Elle répond, mais plus les situations empirent, et en fait, moins elle parvient à être diplomate. Et ce que représente ce récit-là, c'est comment une situation qui semble paradisiaque peut complètement dégénérer avec comme point de départ une agression sexuelle de la part d'un directeur qui, au passage, je le dis, cette personne est toujours en poste. Voilà. Et comment, en fait, une chercheuse brillante qui, a priori, avait son avenir tout tracé, c'est difficile de dire tout tracé dans la recherche actuellement, mais qui, en tout cas, avait toutes les chances de son côté pour faire une thèse parfaitement réussie et peut-être continuer dans la recherche publique par la suite, comment on peut briser une carrière ? Donc, comment on peut avoir une personne complètement brisée qui est un gâchis humain pour elle, un gâchis pour sa santé et un gâchis pour notre société, parce que ça fait une super chercheuse qui doit quitter ce travail-là. Donc, on voit... Là, sur l'aspect, vous avez utilisé le terme roman noir, et effectivement, ce sont des commentaires que j'ai reçus en disant oui, c'est vraiment sous forme de roman, quelle est la part de fiction ? Comme si, quelque part, étant donné que c'est sous forme narrative, il y aurait une part de fiction. Et donc, moi, ce que je tiens à dire, c'est que non. Le but d'une écriture comme ça, c'est d'immerger les personnes pour vivre dans votre propre chair. Quelle est cette réalité-là ? Ça va pouvoir parler en premier lieu, évidemment, aux personnes qui ont fait un doctorat, qui connaissent le monde académique, mais à toute personne qui savent ce qu'est le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, ça peut parler à toutes ces personnes-là également. Laurine a vécu du harcèlement sexuel par un directeur haut placé qui a été protégé par son administration. Cette personne-là, en plus a cherché à miner ses travaux parce qu'il se trouve qu'en plus d'avoir été agressée sexuellement, Laurine obtient des résultats scientifiques qui vont à l'encontre de ceux
des
de
résultats
son, du Grand Ponte.
Du Grand Ponte, voilà.
Donc là, on a un double combo qui est vengeance pour refus d'une relation amoureuse ou sexuelle et en plus, essayer de garder son statut de Grand Ponte parce que vous comprenez, si votre propre doctorante publie des résultats qui vont à l'encontre de vos propres résultats, ça peut écorner votre image. Alors que, encore une fois, elle le dit elle-même, on n'avait pas besoin d'en arriver jusque-là, on peut réfléchir dans la science, c'est normal d'avoir.
Et d'ailleurs, elle recommence tranquillement les
Bien
études
sûr.
Et les tests et les résultats pour essayer de pour voir si
Bien
vraiment
sûr.
Elle s'est trompée, elle.
Donc son récit à elle montre un ensemble de facettes qui peuvent exister dans la recherche, dans certaines équipes, en tout cas qui ont existé dans une certaine équipe, qui englobe un ensemble de discrimination et de violence, discrimination sexisme bien évidemment, mais aussi diverses violences. On a essayé de ruiner sa carrière justement. En gros, elle a vécu la vengeance d'un directeur de recherche. Mais le pire dans tout ça, et c'est d'ailleurs ce qu'elle dit...
Qui prend l'argent auquel elle aurait droit, qui empêche la publication de ses articles.
Oui, et ça, encore une fois, je le répète, c'est pas une fiction, c'est la vraie vie. Et tout ce que je décris dans ce livre-là, c'est la vraie vie. Ces personnes, j'ai fait une part de leur autobiographie, en fait, sur ces quelques années de vie. Et ce qui est important ici, c'est quelque chose que malheureusement j'ai beaucoup retrouvé dans les témoignages des personnes que j'ai pu interviewer ou des personnes qui continuent de m'écrire actuellement, c'est je me suis plaint à l'administration, l'administration a soit fermé les yeux, soit a couvert ses actes. En l'occurrence, l'administration à laquelle Laurine s'est plainte pour agression sexuelle et harcèlement moral a couvert le Grand Ponte.
Elle n'a jamais eu de réponse,
mais c'est surtout qu'ils ont été au courant qu'il y avait du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, et ils n'ont rien fait. Directeur d'université, directeur d'école doctorale.
On rappelle, c'est un délit.
C'est un délit.
Et on doit, au niveau d'une institution, protéger la santé et la sécurité au travail des personnes qui sont sous votre responsabilité.
Absolument, et d'autant plus dans la fonction publique, il y a un texte qui dit clairement... Tout fonctionnaire, toute personne dépositaire, toute personne qui travaille dans la fonction publique, en tout cas, qui prend connaissance d'un délit ou d'un crime avéré ou supposé,
tout à fait.
Doit en
Absolument.
Avertir.
C'est une obligation.
Bien sûr.
Ouais, oui.
Et là, c'est clairement, ce sont des personnes toujours en poste.
Ça fait partie de ce que vous appelez omerta.
Exactement.
Loi du silence,
omerta. Heureusement. Et à l'inverse, dans ce récit, et c'est pour ça que pour moi, il est aussi important, le récit de Laurine, c'est que donc j'ai parlé de deux co-directeurs.
Tout à fait.
Et comme elle le dit elle-même...
Un qui a surtout une influence dans le système, on va dire, un Grand Ponte, un mandarin. L'autre qui est un autre directeur de thèse, co-directeur de thèse, mais qui est très brillant.
Exactement, qui est très brillant, mais qui malheureusement ne parvient pas forcément à faire pression pour que cela cesse. Alors
il a moins de réseau.
C'est difficile de savoir si c'est une question de réseau, si c'est une question de volonté. Parfois, c'est difficile de se mettre à dos un collaborateur, même quand on est brillant. Mais il est quand même très important parce que ce que je montre aussi dans ce récit, c'est, et comme Laurine elle-même le dit, de mes deux cadrans, l'un était aussi pourri que l'autre était formidablement humain.
Oui.
Et c'était important aussi pour moi de montrer que dans un autre laboratoire, là où elle va dans un autre laboratoire de son co-directeur, eh bien, les conditions de travail sont optimales. C'est beaucoup de travail parce qu'un doctorat, on n'a jamais dit que c'était... Personne ne s'attend à se tourner les pouces pendant un doctorat. C'est un travail intellectuel exigeant. Mais c'est dans ce laboratoire-là, il y a des conditions propices à l'effervescence intellectuelle, au bonheur au travail. C'est pas un gros mot de dire qu'on peut être heureux pendant son doctorat. Et c'est pas parce qu'on ne souffre pas qu'on fait pas un bon doctorat. Bien au contraire.
Parce qu'il y a cette représentation aussi du côté de l'institution qui dit, bah oui, mais c'est normal. Il faut... Enfin, en fait, il faut... Oui, c'est normal de souffrir. Enfin, il y a un côté. C'est pour ça que j'avais employé le mot chemin de croix aussi, ou sacerdoce. Vous le dites.
Je dis sacerdoce.
Sacerdoce aussi parce que voilà, c'est, on est là pour souffrir, hein, pour le dire très poliment. Et donc, bah, tout ça, c'est normal. Et puis voilà, on veut être docteur. Bah, il faut y mettre. Il faut en donner ou il faut en payer le prix.
Oui, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est que autant le deuxième co-directeur de Laurine, lui, est extrêmement bienveillant et fait grandir sincèrement ses doctorants, la recherche, parce que voilà, un bon environnement de travail, c'est faire élever ses doctorants d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue humain, d'un point de vue professionnel. Mais malheureusement, et d'ailleurs moi j'en ai été directement témoin, il y a des directeurs de recherche qui continuent de penser, qui continuent de dire, si tu ne souffres pas, c'est que tu ne fais pas une bonne thèse, ou un doctorant qui ne déprime pas, ce n'est pas un bon doctorant.
Voilà. Être dépressif pendant son doctorat ou après son doctorat, c'est une chose considérée comme normale, parce que c'est une épreuve.
C'est ça, même pour certains. Pour beaucoup, malheureusement, c'est censé être normal, mais presque, c'est une condition sine qua non du mérite, de l'excellence. Dans certaines équipes, c'est un peu la course à qui sera en burn-out le plus vite pour prouver qu'il a vraiment beaucoup travaillé, qu'il se donne corps et âme pour sa recherche. Et donc ça, ce sont des situations qui ne sont pas acceptables. Il faut former les gens. Ça, c'est une sorte de, c'est une gestion humaine, une espèce de management des années 30 où on y va par la force, on y va. C'est un aspect complètement dépassé du travail, et on le voit bien. Là, on est en train de voir, par exemple, qu'il y a une baisse du nombre de doctorants tous les ans. Il y a un problème d'attractivité dans la recherche, c'est un fait.
Ouais.
On peut se poser la question, quelles sont les causes? Alors, il peut y en avoir plusieurs, et je prétends pas avoir toutes les réponses à cette question, c'est sûrement multifactoriel, mais effectivement, on peut se dire, il y a quand même de moins en moins de débouchés, en tout cas dans le monde académique, parce que c'est pas parce qu'on fait un doctorat qu'on veut rester dans le monde académique. Le doctorat, c'est une expérience professionnelle, c'est un diplôme, donc on peut faire un doctorat comme on peut faire un master et ensuite faire d'autres choses, quoi. Donc voilà. Mais ensuite, faire croire qu'il n'y a aucun problème dans la recherche, c'est complètement illusoire. C'est-à-dire que on cherche à avoir une bonne image de la recherche, on cherche à attirer les talents, les jeunes chercheurs, soit. Mais c'est lorsque on dit la recherche est super, le doctorat, il n'y a pas de problème, ou alors ils sont vraiment à la marge, et qu'à côté, on a des directeurs qui, sans aucune honte, disent un doctorant qui ne déprime pas, ce n'est pas un bon doctorant. Là, ce sont des choses qui, clairement, posent problème, parce que outre le fait que ça donne pas du tout envie de venir, ça montre aussi que c'est une mentalité qui est complètement intégrée dans certaines équipes de recherche.
Ouais.
Donc, pour avoir
et
l'attractivité...
Et notamment avec des préjugés, pas de vie en dehors du doctorat et des recherches que l'on fait durant ces années de doctorat. Donc malheur à celles ou à ceux qui ont une expérience de maternité-paternité durant leurs années de doctorat, ou qui privilégieraient donc leur vie non professionnelle à la vie professionnelle.
Oui, tout à fait.
Ils sont tout de suite taxés. Comment tu peux... Enfin, il y en a un qui dit comment tu peux me faire ça à moi quand elle lui annonce qu'elle est enceinte, voilà.
Exactement, oui, c'est un exemple tout à fait parce que, comme cet autre témoin le dit, j'ai été enceinte pendant mon doctorat, mon directeur l'a très très mal pris, mais pour elle, c'est pas nécessairement du sexisme, ça s'intègre dans une logique du publi ou péri qui est que la moindre chose qui fait perdre du temps, qui retarde les travaux, les résultats, en l'occurrence un bébé, un congé maternité ou le fait de pas forcément pouvoir venir tous les week-ends gratos, de ne pas rester jusqu'à 22h le soir, eh bien, ça fait prendre du
c'est
retard.
C'est ça, se déconnecter, ne pas envoyer à 1h du matin des mails pour son dernier article ou vouloir un peu de vacances et tout. Alors, exactement. Si vous le voulez bien, on passe au cas de Baptiste, sur lequel donc il y a un long récit du calvaire que Baptiste a connu. On a dit tout à l'heure que c'est un étudiant qui était un boursier du CROUS, qui a toujours dû subventionner perfectionner un peu ses études et qui donc y redouble parce qu'il travaille à côté. Et effectivement, il se retrouve un petit peu âgé à l'âge du doctorat.
Tout à fait. Alors, le témoignage de Baptiste est terrible et extraordinaire aussi, parce que pour moi, de toute façon, toutes les personnes qui témoignent, toutes les personnes qui passent par là, pour moi, je suis très admirative. Je crois que je suis la première fan de ces personnes-là. Je les trouve extraordinaires. Le témoignage de Baptiste parle à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes m'écrivent en me disant qu'ils se retrouvent en lui. Il y a plusieurs aspects au témoignage de Baptiste. Le fait déjà que c'est une personne précaire. On a parfois l'image du doctorat très élitiste avec uniquement des personnes très privilégiées. Non, il faut savoir qu'un doctorat, il y a des personnes précaires qui peuvent y prétendre, qui ont les compétences pour faire un doctorat. Mais il se trouve effectivement pendant sa licence et son master qu'il a dû travailler dans un fast-food plus de 20 heures par semaine pour subvenir à ses besoins, tout simplement.
Oui, et que donc on sait très bien que plus vous travaillez plus de 12-13 heures par semaine, ce sont des statistiques, un étudiant n'est pas en capacité de véritablement faire son année universitaire. Et donc il redouble, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que tout simplement il travaille beaucoup trop pour pouvoir survivre.
Exactement. Et ensuite il finit par faire un doctorat. Et là, il est confronté à un directeur de recherche, mais même un système, encore une fois, qui ne l'accepte pas parce qu'il n'a pas les codes, il ne vient pas du monde universitaire, il n'a pas une mention très bien à tous ces semestres.
Oui, il a mis quelques années à faire, il a redoublé quelques années en licence,
bien
et
sûr.
Puis même chose, il n'a pas fait un master en 2 ans, mais en 3 ou 4 ans, voilà.
Et de surcroît, il est homosexuel. Alors là, malheureusement, mais c'est terrible pour lui parce qu'il se retrouve dans une équipe qui, bien loin de l'exemple bienveillant qu'on peut avoir dans le premier récit sur le deuxième co-directeur, là, on est face à un directeur de recherche qui, certes, est brillant. Et là, c'est quelque chose que Baptiste n'a jamais nié. Son directeur de recherche est brillant, mais c'est un monstre, selon ses propres mots. En tout cas, selon les mots de Baptiste, c'est un monstre, c'est une personne qui l'exploite le plus possible, qui fait en sorte qu'il travaille des mois et des mois sans aucun repos, tous les week-ends, tous les jours fériés. Le problème, c'est que Baptiste fait des découvertes. Baptiste fait des découvertes, sauf que... alors, est-ce que c'est probablement d'ailleurs... est-ce que c'est un préjugé ? Son directeur de recherche refuse de croire en ses découvertes en disant « Non, j'y crois pas du tout. » Donc,
Générale, quand ils sont très brillants, les directeurs de recherche ont du mal à accepter que le petit élève est plus brillant que le maître.
Ça, alors, j'ai pas de statistiques sur le sujet, mais en tout cas, c'est parfois, on peut se poser la question de quel est l'impact psychologique quand un élève dépasse le maître. Ce serait très intéressant de faire une étude plus approfondie.
Mais on est supposé éduquer, c'est supposé quand même amener l'autre à vous dépasser aussi,
bien
pas seulement à votre niveau, mais à vous dépasser aussi.
Bien sûr. Et d'ailleurs, ça souligne un manque cruel qui est le manque de formation des encadrants de thèse, des personnes qui ont une habilitation à diriger des recherches. Ces personnes passent cette habilitation sans avoir aucune obligation de formation pédagogique.
C'est ça, à l'encadrement.
Exactement.
On vient un problème.
C'est valorisé, mais il n'y a aucune obligation à cela. Il n'y a pas d'examen qui serait sanctionné par cette obtention-là. Non, c'est uniquement une deuxième thèse. Alors, il y a des écoles doctorales, là, c'est important de le dire aussi. Il y a des écoles doctorales qui demandent maintenant qu'il y ait ces formations-là. Mais c'est pareil, on peut faire acte de présence, quoi. C'est pas un examen. Et ensuite, il y a bien sûr l'aspect, donc il y a vraiment l'aspect précarité qui ressort, l'aspect discrimination sociale, mais aussi la discrimination à l'orientation sexuelle, bien évidemment. Et ce qui est très intéressant dans ce récit-là, c'est qu'en fin de compte, Baptiste est seul. Baptiste est seul. C'est quelqu'un...
Il n'a le soutien de personne, Baptiste.
En tout cas, il n'a pas le soutien de sa hiérarchie. Et bien heureusement, il a son conjoint. Et bien heureusement, il a des collègues qui l'aident et qui sont d'une gentillesse formidable. Parce que souvent, en doctorat, quand ça se passe mal avec sa direction, on a besoin des collègues. Les Polonais sont primordiaux. Mais très clairement, malgré toutes ces belles découvertes, il va découvrir de façon très très rude les intrigues. Et pourquoi ce récit-là s'appelle de l'art du réseau et de la survie? Parce qu'il illustre à quel point le réseau est important dans la recherche. La science est importante, mais malheureusement, il semble que le réseau soit au moins aussi important, si ce n'est plus.
Que votre travail en lui-même, que la qualité de votre travail en lui-même. Alors, sexisme décomplexé, violence psychologique, environnement de travail ou de thèse complètement discriminatoire, je vous propose de poursuivre avec le témoignage de Sarah un peu plus tard, mais tout d'abord une pause musicale et vous allez nous faire découvrir un groupe de pop rock, Adèle Combes. Je vous laisse la parole pour nous présenter ce groupe.
Oui, écoutez, c'est le groupe Léo Elso, c'est un jeune groupe de pop rock français, je pense qui mérite d'être découvert et qui est actuellement à la recherche d'une maison de disques, donc je vous laisse découvrir.
Bon, alors nous l'écoutons déjà pour commencer.
Yeah.
Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Adèle Combes. Nous venons d'écouter Léo Elso. Il pleut, mais qui est à la batterie, Adèle?
C'est Lorraine, qui est une super batteuse. Et je pense que c'est une musicienne qui ira très très loin.
Alors, on se verra ça de près, mais nous allons revenir donc à cet ouvrage que vous venez de publier, Comment l'université broie les jeunes chercheurs, aux éditions Autrement. Donc, nous avons vu à travers des témoignages et votre propre constat comment régnait un environnement souvent bien discriminatoire pour ces jeunes doctorants, avec un sexisme décomplexé, on l'a dit, l'homophobie inattente, on vient de le voir avec le cas de Baptiste. Une exploitation aussi des jeunes chercheurs, en particulier étrangers, le racisme, le vol des travaux de ces jeunes chercheurs. Qu'est-ce qui est arrivé à Sarah ?
Alors, le cas de Sarah est encore différent et représente encore beaucoup d'autres doctorants, jeunes chercheurs. Sarah, elle a fait un doctorat en anthropologie, donc elle représente tous les doctorants en sciences humaines et sociales. Et en tout cas, pas tous les doctorants dans le sens tout, mais en tout cas, c'est elle qui représente les doctorants, la face,
le côté sciences humaines et pas sciences dures de l'étude, de votre étude, oui.
Donc c'est Sarah qui représente le côté sciences humaines de l'ouvrage. Et donc clairement, Sarah, elle, est une chercheuse qui a toujours tout réussi, très très facilement, qui a un profil à haut potentiel intellectuel et qui très naturellement fait un doctorat en anthropologie sur la demande expresse d'ailleurs de son ancienne directrice de master qui souhaite la garder en lui disant c'est un excellent travail, je souhaite vous garder en doctorat. Malheureusement, Sarah n'a pas de financement pour faire ses travaux de recherche et là, eh bien, on voit toutes les conséquences de l'absence de financement quand on fait des travaux de recherche. C'est pas juste manger des pâtes, ça va bien au-delà. Il y a toute la fatigue que cela engendre, quel est l'impact que ça peut avoir sur le travail intellectuel. Et donc, c'est un aspect, personnellement, par exemple, moi je suis docteur en neurobiologie, je ne connaissais pas cet aspect-là. Et je pense que c'est important d'en parler parce que même en tant que doctorant, on n'est pas toujours au courant des conditions de travail des autres doctorants. Et j'ai été assez choquée de voir que oui, on pouvait faire un doctorat sans financement, sans droits sociaux, sans congé maladie. Et c'était pour moi très important aussi de représenter son histoire-là. L'histoire de Sarah est très, très riche. Il se trouve que moi, quand je l'ai rencontrée, elle était toujours doctorante. Donc, il y avait en plus un stress supplémentaire parce que vis-à-vis de l'obtention de son diplôme, c'était encore autre chose. Le fait qu'il ne fallait pas que notre entrevue s'ébruite avant longtemps, histoire qu'elle puisse avoir son diplôme quand même.
Soutenir sa thèse, précisément.
Exactement. Et donc, à travers l'histoire de Sarah, on voit tout l'impact de la précarité, on voit la folie administrative, parce que malheureusement, le manque cruel de personnel, le manque de financement, ça n'impacte pas que les chercheurs titulaires, ça n'impacte pas que les personnes qui font la recherche, ça impacte aussi toute l'université, donc les administratifs. Et on voit très clairement qu'il y a beaucoup, beaucoup de tensions au niveau administratif. On voit un manque, par exemple, cruel de postes d'enseignants, parce qu'il faut savoir aussi, et ça, c'est quelque chose pareil, moi, j'étais pas au courant avant tout ça, et personne, très peu de personnes le savent, mais qui donne cours à vos enfants à la fac, en licence, à master ? Qui vous donne cours si vous êtes étudiant, que vous écoutez, qui est dans le cours ? Ce sont très souvent des jeunes chercheurs en doctorat qui sont précaires.
Ou en post-doc. À terre.
Voilà. Et ce sont des personnes qui sont très souvent précaires, qui sont payées au lance-pierre et sur qui toute l'université repose en fait. Donc, quand on parle de la recherche, on doit aussi voir cet aspect-là. Les jeunes chercheurs, c'est pas juste des personnes dans leur coin qui essaient de comprendre le monde et puis qui sont déconnectées de la réalité. Non, déjà, ils s'intègrent complètement dans notre société. Ils construisent une meilleure compréhension de notre société, mais en plus, c'est eux qui font en partie l'avenir de notre société parce qu'ils donnent cours à nos étudiants. Donc ça, c'est très important. Et cet aspect-là sur les vacataires de l'enseignement supérieur prend beaucoup de place dans ce récit-là pour montrer cette réalité, encore une fois, cette réalité incarnée, cette réalité physique qu'on ne perçoit pas nécessairement juste avec des chiffres, en fait. Ensuite, l'histoire de Sarah, on parle bien sûr d'une discrimination au handicap et encore une fois, qui s'intègre aussi dans la folie administrative qui fait que, au lieu de voilà, donner un papier, on adapte un emploi du temps parce qu'il faut, il faut adapter un emploi du temps pour cause de handicap.
Ah, voilà, c'est ça. Elle demande là, un aménagement de son emploi du temps avec présentation d'un certificat médical et elle ne l'obtient jamais.
Et là, on part, mais dans une aberration la plus totale, on se dit c'est pas possible, elle a exagéré son récit, c'est pas possible. Mais non, c'est ça. Dans certaines facs, dans une fac en particulier et dans d'autres, il y a des problèmes administratifs tels qu'on n'est pas capable d'aménager l'emploi du temps d'une personne en situation de handicap. Bien sûr, c'est source de grand stress, c'est source d'exacerbation du handicap, bien évidemment. Et donc ça impacte quoi ? Ça impacte aussi le travail de recherche. Donc ça, c'est un autre point. Et enfin, un point très important du récit de Sarah, c'est le vol de travaux, c'est l'impact que le harcèlement moral peut avoir sur des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs, et le pire qu'on peut imaginer, en gros, voilà. Mmh. C'est jusqu'où ça peut aller. Ça peut aller très très loin, jusque le plus loin qu'on peut imaginer, en fait, tout simplement.
Oui, c'est elle qui est témoin ou c'est Baptiste d'un collègue qui se suicide.
Oui, donc c'est elle qui est
témoin. Pascal.
Qui, voilà, c'est elle qui voit ça. Et ça, pareil, moi je ne suis pas allée chercher une personne quand j'ai fait mes enquêtes en disant il faut absolument une personne qui est en situation de handicap et qui voit la gravité. Non. C'est au fur et à mesure que des personnes m'ont contacté ou que j'ai contacté des personnes, ces récits sont venus à moi. Mmh. Et donc, ce cas extrême, c'est la vraie vie, encore une fois, qui est très rare et bien heureusement encore heureux. Mais il se trouve que ce cas existe, ce cas a existé et a complètement été étouffé par une administration qui préfère protéger son image que ne serait-ce que de déclencher une cellule psychologique pour aider les collègues, par exemple. Mmh. Donc oui, on a des situations graves avec des gens, et eux aussi, sont toujours en poste. Et voilà, en fait, on laisse des gens dépérir. Mmh. Et on se dit que c'est pas très grave.
Alors, oui, précisément, lequel de vos trois, je crois que c'est ou Baptiste ou Sarah qui n'obtient que la mention la plus basse passable lorsque il ou elle soutient sa thèse et apprend quelques années après que, en fait, tout le monde dans le jury voulait lui mettre la mention, la plus haute mention, parce que c'était, je crois que c'est Baptiste, non ?
Alors, en fait, moi, j'ai conduit plusieurs interviews. J'ai pas pu toutes les mettre de façon très, très
aussi
exhaustive.
Aussi détaillée, voilà, que les témoignages dont nous venons de parler.
Exactement.
Laurine, Baptiste et Sarah.
Donc, entre ces longs témoignages immersifs, il y a bien évidemment beaucoup de chiffres pour le contexte, qui sont très faciles d'accès, oui, bien sûr, mais il y a aussi des témoignages de taille intermédiaire. Et donc là, vous parlez d'un témoignage de taille intermédiaire, donc c'est le témoignage d'Axel, qui lui a fait sa thèse un petit peu avant que les autres. Donc à cette époque-là, il y avait encore des mentions en doctorat, mm-hmm, qui étaient importantes pour sa suite de carrière. Entre-temps, en l'occurrence, elles ont été supprimées. Mais effectivement, simplement parce que, pour des questions d'ego, son directeur de recherche a fait pression sur le jury pour que le jury lui attribue la note la plus basse lors de son diplôme. Et il en a eu c'est pas juste des oui-dire, il en a eu la confirmation quand quelques années plus tard, il a pu échanger avec un des membres du jury qui lui a confirmé « Oui, ton directeur de recherche a fait pression sur nous. » Parce qu'en fait, il n'aimait pas que tu aies cité une autre collègue qu'il n'aimait pas.
Oui. Il avait cité une collègue qui n'avait pas l'air de plaire.
Donc là, il y a des problèmes d'ego aussi.
Oh,
et Et heureusement qu'il y a beaucoup de chercheurs d'une nouvelle génération, même des générations plus anciennes, qui s'insurgent contre des pratiques comme ça, qui sont aberrantes. Mais malheureusement, elles existent. Et les membres du jury, il lui dit 2 ans après, certes, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour autant ? Voilà. Donc, c'est une chose de soutenir psychologiquement, de dire « c'est pas bien » et de taper sur la table, mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est aussi à ces personnes-là qui sont en position de pouvoir, en tout cas qui ont plus de pouvoir que des personnes précaires. Mmh. C'est à eux d'agir. Et ensuite, c'est à l'institution, quand elle en prend connaissance, d'agir, de ne pas mettre ça tout sous le tapis.
Oui. Alors, précisément, lorsqu'on se trouve dans notre émission, on va toucher bientôt à sa fin. Donc, une petite question, quand on se trouve dans ces situations-là, quels conseils donneriez-vous par exemple, est-ce qu'il y a des personnes, un médecin du travail, est-ce qu'il y a un psychologue du travail, est-ce qu'il y a des gens qu'on peut alerter en particulier pour faire remonter la situation ?
Oui, alors déjà, de toute façon, ce livre-là, pour moi, un des buts, il y a plusieurs buts, mais un des buts de ce livre, c'est de montrer des exemples de situations pour pouvoir les identifier peut-être à l'avance, oui. D'identifier des situations qui semblent un peu anormales et qui ne sont pas acceptables. Donc déjà, avoir ces armes-là.
C'est ça, pour savoir qu'on n'est pas seul et que ça n'est pas normal.
Exactement.
Et que dans certains cas, ça constitue des délits ou des abus de pouvoir.
Exactement, parce que parfois, on ne dit rien soi-même.
On n'ose pas, absolument.
Mais parce qu'on pense que si ça se trouve, c'est normal.
C'est normal,
si ça se trouve,
ou c'est normal, ou on est tellement dénigré qu'on finit par croire qu'on ne vaut rien.
Exactement, bien sûr. Mais donc déjà, de savoir, ces situations-là ne sont pas normales. Si on veut, refuse de prendre des congés, sauf s'il y a une explication très précise, mais ça doit être assez ponctuel, en fait.
Oui.
Ça, c'est anormal. Si on vous refuse des choses qui sont dans le droit du travail, en fait, parce qu'il y a malheureusement des équipes de recherche dans lesquelles le droit du travail semble inexistant, bizarrement.
Quand on vous attribue une somme pour vos frais professionnels et vos déplacements en colloques internationaux, le directeur de thèse n'a pas à prendre cet argent pour lui.
Exactement.
Ou n'a vous demandé de faire des recherches pour sa femme.
Exactement, voilà, je vois que vous avez bien lu le livre. Oui, donc là déjà, ça c'est un premier point. Pour ces personnes-là, sachez qu'il y a des choses à faire. On peut identifier des situations que l'on croit normales, mais il faut avoir conscience qu'elles ne le sont pas. Ensuite, il y a les médecins du travail, les psychologues du travail et ou des étudiants. Ce sont des professionnels de santé qui existent. Vous pouvez aller leur parler. Il faut savoir, surtout quand on est professionnel, quand on demande rendez-vous avec la médecine du travail, le médecin du travail se doit de nous recevoir. Après, il y a un problème de pénurie de psychologues du travail.
De médecins et psychologues du travail.
Donc ça, c'est malheureusement un autre problème.
Oui.
Mais en tout cas, il faut savoir ça. Il y existe aussi, depuis, c'est assez récent, mais des référents intégrité scientifique, des référents harcèlement, vers qui on peut aussi se...
À l'université et dans les écoles doctorales.
À l'université, exactement. Il y a bien sûr les syndicats, il y a les associations doctorantes. Je pense aussi à la Confédération des jeunes chercheurs qui, elle, est plus nationale, mais il y a beaucoup d'associations locales. Et bien sûr, le CLASH, en cas de sexisme ou de harcèlement sexuel, c'est une association très importante qui se bat pour faire valoir les droits des personnes victimes de harcèlement sexuel ou de sexisme. Mais ensuite, moi, ce qui est important aussi, c'est qu'on ne peut pas faire reposer ce changement-là uniquement sur les épaules des jeunes chercheurs. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de se dire « bon, t'as un problème, t'as qu'à en parler, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça ». Le problème, c'est que quand on est sous une emprise psychologique, quand on a l'impression...
Sous violence psychologique, ou dénigré, ou harcelé, oui, on n'a pas toujours...
Mais c'est extrêmement difficile, et puis ça voudrait dire surtout... Si en tout cas on ne propose que ça, ça voudrait aussi dire que si tu n'as pas réagi quelque part, c'est que tu étais un peu d'accord, quoi. Donc en fait, comme d'habitude, et ça on le voit, moi je le vois sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui. Bref, on fait reposer la culpabilité des souffrances sur les personnes qui les subissent.
Hein. Oui.
Quelque part, tu n'as pas assez parlé, ou tu as trop parlé, ou tu n'as pas dit ce qu'il fallait, tu n'as pas dit ça aux bonnes personnes. Et puis... Tu savais bien à l'avance que c'était difficile, alors pourquoi tu te plains maintenant ? Voilà, ça, c'est des choses dont on est habitué à entendre. Et donc, c'est pour ça que moi, ce que je dis, c'est que certes, il faut que vous connaissiez ces référents, ça existe, mais ça ne suffit pas. Il faut que les personnes, les directeurs d'institutions, il faut que les politiques s'en emparent pour profondément changer les choses. C'est à eux de protéger les jeunes chercheurs.
Est-ce que vous pensez que dans la campagne présidentielle qui se déroule, vous avez trouvé chez les uns et les autres des propositions auraient pris conscience de ce dont vous nous alertez dans le livre ?
Alors c'est malheureusement assez difficile. Il y a The Meta News qui en l'occurrence a posé des questions justement aux candidats à la présidentielle pour faire valoir les chercheuses et les chercheurs, titulaires et non titulaires, en tout cas toutes les personnes qui travaillent à l'université et dans la recherche, pour mettre la recherche aussi au centre de la présidentielle. On est dans une période de crise sanitaire, on nous demande de produire des brevets, de produire des médicaments et ou des vaccins, en tout cas des choses qui nécessitent de la recherche de pointe, et on ne donne pas les moyens financiers et les moyens humains pour faire ça.
Ou on les broie.
Ou alors on
les fait fuir. Je vous remercie Adèle Combe de votre participation à cette émission. Je rappelle que vous publiez Comment l'université broie les jeunes chercheurs, précarité, harcèlement, loi du silence. Et nous nous quittons en musique avec Play, chanté par les Marmosets. À très bientôt pour une prochaine émission.
Merci.
Three, play!